Rien ne peut remplacer la parole d'une personne ayant vécu un choc plus ou moins grave, plus ou moins douloureux. Aussi, l'association Élie m'a proposé de tendre mon micro et d'enregistrer ces témoignages. Déchocage est le résultat de ces rencontres. Amis de Déchocage, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une émission, devrais-je dire trois émissions, un petit peu particulières, parce que nous avons fait un choix. Nous avons fait un choix d'interviewer une famille qui a été touchée de plein fouet par la maladie. On va en parler en détail. Autour de moi aujourd'hui, j'ai trois personnes. J'ai Jean-Hervé, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Je vais très bien, je suis en pleine forme.
Ben ça fait très plaisir, j'ai Rémi en face de moi.
Bonjour, je vais aussi très bien, je fais attention que mon père dise pas trop de bêtises, mais sinon ça va.
Et j'ai Anaïs à ma droite.
Bonjour, moi aussi ça va super.
Ben je suis très très heureux que vous alliez bien. Alors pour expliquer à nos auditeurs, auditrices, comment vont se passer ces trois émissions, parce que c'est vraiment une première aujourd'hui, chacune de ces rencontres sera dédiée à l'un d'entre vous, parce que vous avez tous et toutes été touchés par la maladie. On va en discuter en détail, mais vous êtes libre évidemment d'intervenir quand vous le souhaitez. C'était un petit peu l'idée justement que ça reste quelque chose de vivant. Et on a décidé en antenne qu'on commencerait par Rémi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est passé déjà, tu as découvert, comment tu as su que tu étais malade?
Alors, c'est très spécial. Donc, c'est lors du premier confinement, toute l'époque du Covid que tout le monde connaît très bien. Donc moi, de base, je viens de Normandie, mais je fais mes études sur Lyon, que j'ai fini, et je travaille sur Lyon maintenant. Et donc j'étais sur Lyon en colocation avec mes amis, durant le premier confinement, à faire beaucoup de sport, le programme Insanity pour ceux qui connaissent, sans trop de soucis, on se terminait bien à la musculation. Et lors de la fin du premier confinement, on a décidé d'aller faire une randonnée. On était habitué, mon groupe d'amis, à faire des randonnées. Et là, lors des premières montées, j'ai senti des grosses gênes au niveau du respiratoire, où j'arrivais pas à respirer. Je faisais un peu des crises de panique, comme si mes poumons étaient bloqués pour respirer, alors que de base, j'avais aucun problème. J'avais été alerté, mais sans plus, lors de précédents footing, lors du confinement, où je courais, j'avais des pointes de côté qui arrivaient assez rapidement, alors que de base, je fais du basket depuis longtemps et j'avais diagnostiqué aucun problème lors de mes matchs de basket. Et donc, j'en avais parlé à ma sœur qui est en médecine en lui disant « c'est bizarre, j'ai des pointes de côté alors que je ne fais pas un effort très intense. » Et lors de ma randonnée, j'ai eu des trucs qui m'ont fait un peu bizarre, mais bon, peut-être que j'étais pas bien ou que c'était après le Covid. Le Covid, on parlait beaucoup de problèmes liés à la respiration, donc je me dis peut-être que c'est le Covid, mais bon.
T'avais chopé le Covid à l'époque?
Non, justement, on avait mis ces hypothèses-là. Du coup, j'étais allé voir le médecin traitant pour lui dire « est-ce que j'ai pas été touché par le Covid il y a quelques mois ?» Et du coup, j'ai des gènes respiratoires liés à ça. On a fait le test déjà dans les narines et aussi la prise de sang pour voir. Aucune trace des anticorps pour le Covid, donc j'avais pas été touché par le Covid. Et du coup, voilà, donc fin du premier confinement, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ma famille. Du coup, je rentre en Normandie pour les revoir, donc, et je me suis dit on va aller voir le médecin généraliste que de base me suivait sur Caen pour voir s'il n'y a pas d'autres choses à me faire pour voir s'il y a un problème ou non. Et donc là j'ai voir le médecin généraliste et elle me dit elle me fait l'auscultation, j'entends rien, il n'y a aucun signe qui ne va pas. Pour se rassurer, on va faire un scanner thoracique. Pour ça, pour faire le scanner thoracique à injection, il faut faire une prise de sang. Et du coup, on suit les choses. Donc, elle m'avait traité avec. J'avais fait un premier test avec pour une maladie, je ne sais plus laquelle c'était.
C'était pour la sarcoïdose.
Pour la sarcoïdose, qui est une maladie qui se traite avec juste des antibiotiques, donc une petite maladie. Donc, je vais faire la prise de sang et prendre la chose pour la sarcoïdose, le médicament. Et là, après la prise de sang, je pense que c'est le lendemain, elle a les résultats en premier, et du coup, elle m'appelle et elle me dit Rémi, il faut que j'avais rendez-vous pour aller faire le vaccin contre la sarcoïdose et pour voir les résultats de la prise de sang. Et là, j'arrive et elle me dit les résultats des prises de sang sont vraiment pas bons. Elle m'a montré un peu les chiffres, moi j'arrivais pas à voir trop ce qui se passait, mais là on voyait que tous les marqueurs protection immunitaire et autres étaient au x10 par rapport à la borne supérieure admise. Et elle me dit, donc là j'ai
fait c'est-à-dire que même si tu connais pas forcément les chiffres, etc., bah là t'as un marqueur...
je commençais à comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas, surtout quand elle annonce qu'elle a appelé des amis à elle au CHU, hématologue, pour me prendre en urgence dans l'après-midi.
Il y a un indice.
Si je commence à avoir une lettre pour aller au CHU et que tout s'enchaîne, que moi je commence à voir que ça ne va pas. Ah si, j'avais fait au préalable, on avait fait une radio. Avant le scanner, on avait fait une radio que j'avais fait ici, donc j'étais allé au... On m'avait pris et là, on avait vu des masses au-dessus des poumons, au niveau des poumons. Et il me disait, bah, c'est sûrement la sarcoïdose, d'où le ça. Ou peut-être le lymphome de Non, il n'était pas...
En fait, c'est quand tu étais revenu de la... justement du centre de radiologie, il m'avait montré sa radio. Et il m'a dit, bah, le radiologue m'a dit que c'était une sarcoïdose, qu'on allait, que c'était pas une maladie grave, et que ça traiterait avec des médicaments. C'était quand même lourd, mais que bon, c'était pas très grave. Mais entre-temps, il avait fait sa prise de sang. Et quand il y a eu les résultats de la prise de sang, ben là, ça a été la panique parce qu'en effet, il avait les globules blancs qui étaient vraiment très, 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 très augmentés, donc qui étaient directement le diagnostic pour le médecin généraliste, il avait été fait, quoi. Et donc, c'est là qu'il a envoyé vers l'hématologue. Sachant que moi, du coup, vu que je suis en médecine, je suis interne en médecine générale, quand il m'avait montré ses résultats, j'avais rien dit. Mais dès qu'il était remonté dans sa chambre, en fait, je m'étais effondrée avec ma mère et je lui ai dit, mais moi, je pense pas que c'est la sarcoïdose, je pense que c'est un lymphome. Parce que quand
d'accord,
on s'y connaît...
Toi, tu étais déjà partie...
Voilà, sur le lymphome. En fait, j'avais déjà pensé à ça. Parce que nous, on apprend dans les cours qu'en fait, c'est les deux maladies qui se ressemblent sur la radio. Et que en fait, bah, c'est un ensemble d'éléments qui nous fait dire quelle est la maladie.
C'est un faisceau de présomption.
Voilà,
de
et donc, bon, le radiologue, c'était un peu avancé dans le mauvais sens. Et après, donc, le médecin généraliste avait quand même tout pris le relais. Et puis, orienté vers, très rapidement vers le... L'hématologue.
Ça fait bizarre quand bah moi j'étais dans ma chambre et j'avais entendu ma soeur pleurer, que ta mère vient me voir après.
J'imagine tout à fait l'ambiance.
Que ta mère monte en haut et dit Rémi, c'est pas grave, on est une famille, on va se battre ensemble et tout. Alors que moi je comprends pas trop ce qui se passe, je suis revenu ici d'un coup en l'espace de deux jours, je passe de bah, ma vie va bien, je suis en dernière d'école d'ingé, j'attends mon stage de fin d'études pour être ensuite dans la vie active. On sort d'une année de confinement où rien ne s'était trop passé et j'ai peut-être une maladie très grave et voilà, donc j'ai été catapulté. Ça, c'était en revenant du médecin généraliste, non?
Et puis tu m'avais dit aussi que je t'avais demandé, comme il y avait trop de globules blancs, j'avais demandé, mais est-ce que t'as été malade récemment et tout ça?
Ouais.
Et tu m'avais dit, bah, en fait, j'ai de la fièvre, mais que la nuit. Et ouais, c'est ça qui m'avait aussi fait dire, oh là là, ça sent pas très bon, quoi.
Bah, en fait, quand on est jeune, on s'en rend pas compte, mais parce qu'on est toujours en bonne santé. Moi, j'étais en cycle d'école d'ingé, donc... Pour ceux qui savent, en école d'ingénieur, on a fini la prépa, donc c'est un peu, on fait la fête, on fait du sport, et donc on est un peu tout le temps fatigué, on peut tomber malade parce que bah, on sort la nuit tard, des fois on est en t-shirt vu qu'on est un peu alcoolisé, des choses comme ça. Du coup, rien n'était étonnant, mais le seul truc qui me rendait bizarre, c'est que je fais des sueurs nocturnes, et des fois le sort sans aucune raison, j'avais des montées de fièvre, où je passais à 39-40 sans aucune raison, et que le lendemain j'avais plus rien. Donc, mais c'est des choses quand on les rallie tous ensemble et qu'on nous dit ah bah les symptômes c'est ça, je les ai tous, mais quand ils sont individuellement et qu'on n'a pas connaissance, et bah, on s'en rend pas compte. C'est pour ça que je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez d'informations sur ce type de cancer qui touche, qui est le premier cancer chez les jeunes, pardon. Mais ça, on l'apprend une fois qu'on est malade et une fois qu'on a notre diagnostic et quand on en parle à notre entourage, à nos amis, personne n'est au courant. Donc, bon, c'est dommage, c'est pour ça qu'on essaye de faire avancer ça avec Ellie. Mais oui, du coup, en l'après-midi, après la consultation de ces médecins généralistes, j'arrive au CHU. Donc là, j'étais avec mon hématologue qui m'explique un peu tout, qu'on va rentrer que c'est sûr à beaucoup de pourcents que ça soit un lymphome. Elle m'explique les différentes maladies entre le lymphome non-Hodgkinien, le lymphome Hodgkinien, les différents types de lymphomes ou les différents types de maladies de cancer que je pourrais avoir avec ces types de masse et de prise de sang.
Donc là, tu rattrapes ta connaissance à ce moment-là.
Là, je rattrape ma connaissance et je commence à être balancé dans un mou. Je me dis, j'ai une maladie, mais est-ce que je vais m'en sortir? Voilà, des choses comme ça. On commence à avoir des pensées sombres. Moi, j'étais en sortant de la consultation, je me suis dit, bah, dans le meilleur des cas, je visais pour avoir un lymphome Hodgkinien, qui était la moins pire des maladies. C'est comme ça qu'on le vit. Je me dis, bah, si j'ai un lymphome Hodgkinien, je serais content, alors que c'est quand même un cancer. Donc... on arrive à des états comme ça. Et moi, ce qui me rassurait dans le lymphome hodgkinien, c'est que je savais que mon père l'avait eu il y a longtemps et que ça se guérissait déjà à son époque et que lui l'avait vaincu. Donc moi, maintenant, je pouvais que le vaincre et mon père était encore dans ma vie aujourd'hui, donc je pouvais encore vivre longtemps. Donc c'était mon objectif. Donc lorsque j'étais au CHU, donc j'ai été pris directement, j'ai eu un lit en espace thoracique, je sais plus comment ça s'appelle, chirurgie thoracique, parce que là j'étais pris pour plusieurs semaines où je restais à l'hôpital et on allait me faire du coup un prélèvement d'une biopsie pour me prélever une masse au-dessus des poumons, qu'on allait me faire une biopsie de la moelle osseuse pour voir si ça avait atteint ma moelle osseuse ou pas, et que j'allais faire une batterie de tests, et que du coup, vu que j'étais à un stade assez élevé, donc on m'avait diagnostiqué stade 3 directement, et bah que du coup tout s'est fait en urgence. Je suis passé en l'espace de 3 jours à « je viens voir ma famille » à « je vais être à l'hôpital dans un lit ». Je remercierai
pour une durée indéterminée,
c'est
du
ça.
Coup. Ouais.
Je remercierai toujours le médecin généraliste et l'hématologue pour avoir utilisé leur réputation, on va dire, pour me prendre en urgence, parce que je pense que tout le monde n'a pas la chance d'être pris en main comme ça en l'espace de quelques jours pour des maladies de ce type. Moi, j'étais assez sensible au don du sang depuis que je peux en faire, et du coup, à l'école, dès que l'association du don du sang venait, moi, j'allais donner mon sang. Et j'avais donné mon sang en janvier ou février, quelque chose comme ça, et de cette année-là, et on m'avait rien diagnostiqué, parce que je sais que normalement, ils sont censés regarder...
Oui.
Le don du sang pour pas donner du sang à n'importe qui. Et moi, j'avais aucune alerte du tout. Et je crois que mon diagnostic se fait fin du premier confinement. Donc, je crois que c'est fin avril ou quelque chose comme ça, en avril 2020. Et là, j'étais passé de « j'ai rien du tout, j'ai peut-être un stade 3 ». Donc, on se dit que les stades 1 et 2 vont très, très vite. Donc, j'étais bien content d'être pris rapidement. Après, le plus long, ça a été lorsque je suis sorti de l'hôpital et qu'on a fait tous les prélèvements, la tumeur qui prélève part à Paris et dure un mois à avoir les résultats. Et moi, je priais pendant ce mois-là avoir un lymphome hodgkinien. Je me rappelle tous les soirs, je vois un lymphome hodgkinien, pas quelque chose d'autre. Et quoi, du coup, on a fait la consultation après avec l'hématologue un mois après. Et là, on m'a annoncé que j'avais un lymphome hodgkinien. Donc, c'est bête à dire, mais j'ai envoyé un message à tout le monde de dire c'est bon, j'ai qu'un lymphome hodgkinien, ça soigne bien. Les taux de. Elle m'avait déjà annoncé, du coup, les protocoles qu'on allait suivre. Ça soigne très bien, il y a 30%, blablabla. Et du coup, moi, j'étais content de le dire et je sentais que mes amis que j'envoyais, que je donnais de nouvelles à Lyon, parce que j'ai un très bon groupe d'amis sur Lyon, ils étaient contents pour moi. En même temps, c'est dur d'être content pour quelqu'un en lui disant « Ah, ben, il a un cancer, mais c'est un cancer qui soigne bien. » Donc, c'est un peu des positions difficiles pour soutenir quelqu'un.
Oui, il y a quelque chose de très ambigu. Je rattache les wagons. Tu parlais de ton père, donc, juste avant. Je n'ai pas précisé les liens familiaux qu'il y avait entre vous en début de podcast. Mais donc, Jean-Hervé, tu es le papa de la famille.
Tout à fait.
Voilà. Et donc, Anaïs, tu es donc la sœur de Rémi.
Voilà, la petite sœur.
Petite sœur.
Donc, voilà. Donc, après, j'ai été traité. Je suis resté chez mes parents pour être traité, pour avoir un cocon familial. Et j'avais été pris en charge au CHU de Caen, donc c'était plus facile. Donc le traitement s'est suivi sur 6 à 8 mois de chimiothérapie avec deux types de protocoles différents. Un premier protocole plus lourd et deux cycles pour bien tout purger pour qu'il n'y ait plus rien après. Après TEP scan, donc c'est un scanner pour lourd pour voir s'il reste des masses. J'en avais déjà fait un au préalable pour situer où se situent les masses. Et à la fin des deux premiers mois après le gros cycle, il n'y avait plus rien du tout, donc très content, quelque chose qui montre que le traitement avait bien fonctionné. Et après, on passait sur un cycle plus léger mais plus long pour éviter que ça revienne. Donc à la fin de le traitement, ça a été bon, comme tout le monde peut le connaître, comme on voit dans les films, en chimiothérapie, hein, on perd ses cheveux, on n'a plus de poils. J'avais des cycles d'immunothérapie, donc aucune défense immunitaire, je ne devais pas sortir de chez moi. Moi, j'ai été touché par de très grosses nausées liées à la chimiothérapie. Je suis quelqu'un qui est, bon, on va rentrer dans un peu gore, mais qui n'aime pas du tout vomir, que j'ai du mal à vomir. Et du coup, moi, c'était surtout la nausée et que j'arrivais pas à vomir. Du coup, je restais juste nauséeux pendant quelques jours. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus marqué. À tel point que j'ai développé un système de protection avec le produit pour désinfecter au niveau de la chambre, ou rien que l'odeur maintenant, qui apparemment n'a pas d'odeur. Cette odeur-là, dès que je la sens, ce qui est un peu l'odeur qu'on utilisait pour les gels contre le
hydroalcoolique.
COVID, hydroalcoolique, et dès que j'ai cette odeur-là, je me mets à avoir des nausées dans la bouche et à hyper saliver.
Oui, du coup, l'odeur, voilà. Il paraît, alors je ne suis pas professionnel du tout dans le domaine, mais il paraît que l'odeur en fait fait partie des parce que ça serait dans une zone du cerveau très proche de la mémoire, il y aurait des liens directs, donc ça, ouais, ce que tu dis ne m'étonne pas.
Ouais, moi ça me le marque encore toujours. En train de voir, là, on est passé, je suis passé à un hôpital il n'y a pas très longtemps, là, et j'ai vu quelqu'un sortir avec un pied qu'on nous met pour les produits lors de la chimiothérapie. Rien que voir ce pied-là m'a donné la nausée. Donc, c'est des choses qui restent et je pense qu'ils vont rester toute ma vie. Mais sinon, le traitement s'est plutôt bien passé pour un traitement de chimiothérapie.
Je l'ai vécu, c'était long. Ça a duré long. Combien de mois, du coup?
Je crois que c'est 6 à 8 mois que ça a duré.
Oui, c'est ça.
Parce que je crois que j'ai dû commencer en mai. J'ai du mal avec les mois. Je sais que ma rémission est annoncée en décembre 2020.
D'accord.
Donc, toute cette période-là. Donc, j'avais beaucoup de monde pour m'entourer. Donc, c'était bien à la maison. Du coup, j'étais pomponné. J'avais mon petit chien qui me permettait de passer mes journées parce qu'on ne se rend pas compte. Mais quand on passe d'une vie d'école d'ingé où on est en colocation avec ses amis à retourner chez ses parents et à passer 6 mois juste avec ses parents et des fois pas voir du monde parce qu'on est en immunodépression. Et ça fait un peu un retour à l'arrière, donc des fois le moral est dur, mais bon, j'avais du monde pour m'entourer, m'aider, mes amis de camp venaient me voir assez régulièrement, je faisais des visios et des petits jeux sur ordinateur avec mes potes de Lyon, des Among Us pour ceux qui connaissent, c'était l'époque où c'était bien à la mode, donc j'ai été bien entouré, et à la fin du coup... annonce de la rémission en décembre, donc j'avais déjà un peu anticipé et j'avais proposé à tous mes amis de revenir sur Caen pour fêter le nouvel an et fêter ma rémission si elle était là. Donc annonce de ma rémission, j'ai pu faire la fête et annoncer ma rémission avec tous mes potes proches et là ça marquera longtemps, j'étais eu de très beaux cadeaux et revoir tous mes proches et c'est là que j'ai pris en pleine face le fait que moi, je voyais mes gens tous les jours, donc ils étaient habitués, mais que mes amis de Lyon, eux, me voyaient que par le biais de la vidéo, et que pour eux, ça a été une période aussi très dure pour eux. J'ai un nombre d'amis que j'avais jamais vu pleurer, qui ont pleuré dans mes bras pendant les longues heures, en mode c'était très dur et tout, de pas pouvoir te voir et de voir que t'étais malade et qu'on pouvait rien faire. Mon coloc, qui lui a le cœur dur comme une pierre, avec la vie qu'il a vécue, m'a dit, parce qu'à l'époque, des footings qu'on a fait là pendant le confinement, ou au bout de 5-10 minutes, j'avais des pointes de côté énormes et je pouvais pas plus courir. Il me disait, c'est des sportifs comme moi. Il me disait, on aime toujours pousser les autres pour continuer, pour donner le meilleur. Et en fait, il me poussait, il me dit, on a dû te pousser. En fait, t'étais malade et on s'en rendait pas compte et tout. Je lui dis, mais personne pouvait s'en rendre compte, mais moi, je m'en rendais pas compte. Donc,
de toute façon, tant qu'on n'a pas fait de test, on peut pas savoir. Hein.
C'est ça. Et donc voilà, et le post-maladie, là, c'est un peu la rédemption. Quelque chose que. On veut tout remettre à zéro, se dire on a une deuxième vie qui commence, faut tout bien faire. Donc on essaye de tout bien faire. Moi je m'étais fixé pour objectif de faire un marathon. J'ai détesté la course à pied avant, je trouvais ça nul de courir pour courir. et malheureusement, comme beaucoup je pense, je me suis mis à la course à pied en commençant à courir quand on sort de chimiothérapie. Moi j'avais perdu tous mes muscles, donc ça fait bizarre de se dire maintenant je vais faire de l'alternance marche-course parce que je peux pas courir 10 minutes. Mais au fur et à mesure, c'est notre raison, moi c'est mon why, vu que j'ai su que c'est lorsque j'ai fait un effort en course à pied ou en montée, que le cardio montait, que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, je me dis que maintenant quand je cours, si je vais tout va bien, c'est que je vais bien. Et donc je me suis mis en tête de faire un marathon que j'ai réussi un an et demi après à faire pour le marathon de Caen, qui était un peu mon objectif de marathon, venir le faire ici, là où j'ai été malade, de me dire je peux faire un 42 km en portant les couleurs d'Eli. Si moi j'ai réussi à le faire là par où je suis passé, c'est que tout le monde peut y arriver et qu'il faut donner sa personne. Et donc je suis tombé dans la drogue qui est la course et maintenant je la lâche plus. Je continue à bien courir et à surtout beaucoup m'entraîner pour essayer d'aller gravir échelon par échelon, d'aller le plus loin possible. Je vais essayer de faire avec mes amis là le GR20 en 5 jours. Donc pour ceux qui s'y connaissent, le GR20 normalement en Corse se fait en 15 jours je crois. Et là on va le faire en 5 jours, c'est-à-dire 3 étapes par jour en courant, en portant les couleurs de Eli, pour essayer de monter un petit projet autour et donner de la visibilité à Eli pour en parler, comme je disais plus tôt. Moi, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que cette maladie, peu de gens la connaissent, peu de gens savent que c'est le premier cancer qui touche les adolescents. Et en fait, ok, les symptômes sont difficiles à déceler, mais pour être pris en charge facilement, moi, j'aurais fait une prise de sang plus tôt. On aurait déjà vu qu'il y aurait pu y avoir des problèmes. On m'avait diagnostiqué une début de pneumonie en février, des choses comme ça en 2020. On m'aurait donné une radio des poumons à faire. On aurait vu qu'il y aurait des masses. On aurait peut-être été pris en charge plus tôt. Donc c'est des choses qui peuvent se se déceler facilement, mais il y a trop peu d'informations mises en avant pour ce type de maladie, et pourtant ça touche principalement les jeunes. Je trouve ça dommage que, par exemple, quand on est à l'école ou on fait de l'éducation sexuelle, on nous apprend ce que c'est le sida ou des maladies comme ça, que ça touche pour différents, mais jamais à un moment on nous parle d'un lymphome hodgkinien, qu'est-ce que c'est, ou hein, que c'est, on nous apprend ça au lycée, on a une heure, en une heure on peut nous donner les types de symptômes, comment ça peut arriver, que ça se soigne bien, mais c'est assez peu connu, et pourtant c'est très réputé, mais ça soigne très bien, et ça c'est, je pense, la grande force de cette maladie, c'est qu'on en soigne bien et on s'en remet très bien après. Moi, lors d'aujourd'hui, j'ai plus aucun symptôme lié à cette maladie. La chimio ne m'a pas touché plus que ça. Le seul problème, c'est que j'ai eu beaucoup de médicaments. Du coup, maintenant, j'ai beaucoup de cauchemars la nuit, de nuits agitées. Je pense que c'est un peu du syndrome post-traumatique. Je sais que toutes les nuits, je fais des cauchemars. Mais bon, j'ai appris à vivre avec, donc c'est pour autant que je suis fatigué le lendemain. Mais voilà, sinon... tout va bien dans ma vie et je la croque à pleines dents.
Ça, c'est génial, ça. Alors, comment tu as découvert l'association Ellie ? Qu'est-ce qui fait que tu te sois rapproché, que tu as eu envie justement de la mettre en lumière ?
C'était pendant que j'étais en chimiothérapie. C'est Jacqueline qui m'a contacté. Je pense que c'était mon hématologue qui m'a dit « Est-ce que tu veux que je te mette en relation avec Ellie ? Ils organisent une sortie avec les jeunes comme toi qui sont touchés. » Est-ce que ça t'intéresserait, c'est soir quand ? J'ai dit, ah oui, ça m'intéresserait. La consultation d'après m'a dit, ah, ça sera même une sortie, vous allez faire un tour d'avion. Je fais, ah, je suis encore plus chaud.
Mais tu sais que je viens de découvrir avec toi qu'il y avait des tours d'avion, je vais me renseigner.
En fait, c'était un ancien, un pilote qui a un lymphome non-hodgkinien, lui, qui a traité sur Caen. Et que du tout, son métier, c'est de faire du transport de personnes en avion. Et du coup, il a proposé, il prenait 4 personnes de 4 personnes, et on allait faire c'était lors du lancement de la Normandie Channel Race, si je dis pas de bêtises. D'accord. Et du coup, on survolait le départ de la course
en
avion. Ouais, j'avais même eu le droit de prendre un peu les manettes.
C'est génial.
Ah, c'était trop bien. J'avais la chance en plus que du coup, on montait par un pilote et 3 personnes, on a le droit de venir accompagner. Et du coup, moi, j'étais allé avec Nathan, le fiancé de ma sœur, et tous les autres étaient en couple. Et du coup, ils ne voulaient pas se séparer. Il y en avait un binôme qui se devait se séparer. Et bien, Nathan s'est dit, oh, nous, on va se séparer. Et du coup, on a eu la chance, vu qu'on était séparés tout seuls, de monter devant. Les autres étaient derrière. Et d'accord. Du coup, j'avais accès aux commandes. Et du coup, je pouvais faire des petits virages ou des choses comme ça. Et du coup, j'étais tout content, comme un enfant, alors que j'étais un jeune adulte.
Moi, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller.
Oh non, je pense qu'en avion, on est toujours, toujours content. Et voilà comment j'ai découvert l'association. Après, j'ai continué avec eux de les suivre parce que je trouvais qu'ils faisaient du bon boulot et leur but, c'était qu'on était pris en charge. C'était pas donner de l'argent pour aider à la recherche. C'était plus on vous aide, on vous accompagne, on vous donne des informations. Et notre but, c'est de nous faire connaître pour véhiculer l'information qui touche cette maladie. Et du coup, je trouvais ça intéressant parce que pour en avoir parlé avec eux, pour eux, ils sont d'accord qu'aucune information n'est transmise sur cette maladie. Lorsqu'on parle du cancer du sang en septembre, par exemple, eux, c'est dur de véhiculer les symptômes de cette maladie et peu de monde le connaissent. Donc, j'en prends part à cette association maintenant depuis un an, là, peut-être 6 mois, j'ai adhéré pour essayer pour intégrer leur équipe sportive et monter des projets avec eux et porter les couleurs dans des courses que je fais. Et notamment, comme j'ai dit tout à l'heure, essayer de faire un projet avec eux sur le GR20 où on essaie de préparer des petites choses sympas pour tout le monde et donner de la visibilité aux plus jeunes, notamment sur Instagram, avec des amis à moi qui sont très portés à Instagram, notamment influenceurs, pour montrer aux gens que les symptômes, que ça touche beaucoup de gens, mais que ça soigne très bien.
Et si jamais, du coup, on veut te suivre sur Instagram
Je pense que moi, sur Instagram, c'est mon compte privé, donc je pense pas que j'ai besoin de plus de followers que d'avoir cette maladie. Mais vous pouvez suivre mon ami et mon coach SDD, donc SDD pour sportif du dimanche, avec qui on va faire plein de vidéos sympas et qui aussi, notamment, si vous voulez faire de la course à pied, donne des très bons conseils et est très drôle sur Instagram. Mais voilà, c'est notamment lui qui va faire des petits reels ou de l'information sur la maladie via son compte. C'est pas avec mes 500 abonnés que je vais toucher beaucoup de personnes, à part mes amis qui connaissent déjà la maladie.
Un énorme merci à vous trois. Moi, je vous propose qu'on se retrouve dans 15 jours pour continuer cette aventure, parce que c'est vraiment un podcast vraiment particulier là. Je suis très très content de faire ça avec vous.
Merci.
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 Déchocage est réalisé par TMDJC Création et produit par l'association Eli. Retrouvez la conversation entre Rémi, Jean-Hervé, Anaïs et Sébastien, ainsi que l'ensemble de nos productions sur Eli.fr. E2LYE.fr.
TMDJC Creations.